Mondial Sport sur RFI. Alexandre Seban, Antoine Grenier.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Mondial Sport, acte 1 ce week-end. À mes côtés ce soir, Antoine Grenier, bonsoir.
Bonsoir Alexandre.
Programme chargé ce samedi, du tennis, de la boxe, du vélo, du football bien évidemment. Mais tout d'abord, l'afro-basket Antoine, car la Tunisie décroche la deuxième couronne continentale de son histoire.
Un sacre tunisien obtenu à domicile à Rades, cerise sur le gâteau, une victoire 77-65 sur le tenant du titre, le Nigeria. Et pour en parler, on rejoint tout de suite Hugo Moissonnier. Bonsoir Hugo.
Bonsoir Antoine, bonsoir à tous.
Vous êtes notre envoyé spécial sur cette afro-basket. Alors, le couronnement de la Tunisie, c'est finalement le succès d'une équipe qui est montée en puissance au fur et à mesure de la compétition.
Montée en puissance au fur et à mesure de la compétition, effectivement, même si elle a remporté tous ses matchs, hein, la Tunisie, les trois du premier tour. Et puis, il y a eu ce quart de finale face à la RDC, parce qu'elle avait été un peu critiquée après ce premier tour. Elle avait été accrochée encore à la pause par la RDC. Et puis derrière, elle avait largement emporté 81-60. Peut-être le début de l'épopée tunisienne, qui s'est ensuite défait du Maroc, 60-52 en demi, et qui a battu le Nigeria, alors que ça avait mal démarré. Également une montée en puissance sur cette finale. Hein, le Nigeria en tête à l'issue du premier quart-temps. La Tunisie qui revient sur le fil à l'issue du deuxième et qui passe même devant, juste d'un point avant la pause, et qui prend 12 points à l'issue du troisième quart-temps. 12 points, c'est également l'écart à la fin du match, 77-65, la victoire d'un collectif, la victoire d'un coaching, celui de Mario Palma, le sélectionneur portugais, ancien sélectionneur de l'Angola, qui a remporté à 5 reprises, c'est son 5e titre dans cette Afro-Basket. Une revanche également pour un public de Rades, bouillant, qui a soutenu ses joueurs, un public qui avait été déçu il y a 2 ans, lorsqu'il s'était contenté, entre guillemets, de la 3e place. Un public auquel a voulu rendre hommage Nizar Knioua, c'est le meneur de cette équipe tunisienne. Il a brillé encore ce soir, Nizar Knioua, en inscrivant 16 points. Et quand je vous parle du coaching de Mario Palma, Nizar Knioua, il ne faisait pas partie du 5 de départ. Il est entré en cours de match, on l'écoute.
On ne l'a pas fait en 2015. En 2017, on l'a confirmé. On a travaillé dur pendant 2 mois et demi pour cette fête. Regardez la salle, elle est toute pleine. Aujourd'hui, on a besoin de la joie en Tunisie. Avec beaucoup de courage, beaucoup d'efforts. On l'a mérité. Mabrouk pour toute la Tunisie.
Mabrouk pour les plus de 10 000 personnes qui ont soutenu leur équipe ici à Rades. Plus de 10 000 supporters tunisiens qui fêtent un deuxième sacre pour leur équipe après celui de 2011. La Tunisie, c'est finalement une nation qui a émergé assez tardivement au premier plan. On peut rendre hommage d'ailleurs à l'ancien sélectionneur Adel Tlatli, qui est un petit peu responsable de cette montée en puissance au fil des ans de la Tunisie ces dernières années.
Hugo, forcément, on va parler du finaliste malheureux du Nigeria, qui aura montré de belles choses quand même dans cette compétition.
Et c'est peu dire qu'on ne les attendait pas à ce niveau, les Nigérians, avec une préparation, comment dire, légèrement chaotique, pratiquement pas de match de préparation, aucun match de préparation face à d'autres sélections, une équipe intégralement renouvelée après le titre de 2015, un seul rescapé, Aike Diogo, mais quel rescapé, meilleur scoreur de ce tournoi, 132 points pour lui, également le meilleur joueur, le MVP, meilleur joueur de cet afro-basket, Aike Diogo, 34 ans, qui il y a 2 ans, pour le coup, avait passé le tournoi sur la touche, parce qu'il a été blessé, il faisait partie du groupe. C'est aussi une belle revanche pour lui, le Nigeria qui aura notamment dominé le Sénégal en demi-finale et qui aura passé plus de 100 points au Cameroun en quart, mais qui se sera incliné tout de même face à la RDC. Néanmoins, une très belle équipe du Nigeria.
Vous en parliez Hugo, le Sénégal de Gorgui Dieng. Les Lions ont pris la 3e place de cette Afro-Basket aujourd'hui.
Oui, avec une victoire 73-62 face au Maroc, plutôt sereine. Et vous me parliez de Gorgui Dieng, 18 points, 10 rebonds, un double-double pour lui, alors qu'il était un peu critiqué, hein, Gorgui Dieng, meilleur scoreur du dernier Afrobasket. Ses statistiques étaient beaucoup plus basses cette année. Néanmoins, il a été récompensé par la FIBA. Il faut dire que voilà, c'est aussi l'un des rares joueurs NBA à avoir accepté de venir, à avoir pu se libérer pour disputer cet Afrobasket. Le pivot sénégalais Gorgui Dieng, qui fait partie du 5 majeur, l'équipe type, si vous voulez, de cet Afrobasket. Gorgui Dieng, donc, qui a mené son équipe à cette troisième place, un peu plus qu'une consolation, nous dit son coéquipier Louis Adams.
Consolation, parce que après tout, on a fini sur le podium. On est venu aujourd'hui pour gagner le match et terminer en beauté.
Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné selon vous dans cette équipe du Sénégal?
Tout a fonctionné, mais tu vois, quand tu joues, tu gagnes, et un jour tu tombes à la malchance. C'est ce qui s'est passé hier. On a raté beaucoup de lancers francs, on a mal démarré le match. N'oublie pas, on a joué avec l'équipe championnat titre. Le Nigeria, c'est une très bonne équipe, donc on a joué, on s'est battu jusqu'à la fin. On a tout donné, âme et cœur et tout, mais ça, c'était pas notre chance.
La troisième place consolation pour le Sénégal qui visait plus haut, le Sénégal qui, on le rappelle, a co-organisé le premier tour de ce tournoi et qui a tout de même battu l'Angola en quart de finale, ce qui est tout de même à signaler. Et puis le Maroc, quatrième, le Maroc qui n'avait pas atteint un tel niveau dans cette Afrobasket depuis bien longtemps, qui a connu des difficultés financières, des difficultés de préparation, des difficultés financières pour sa fédération, et donc un très beau parcours pour le Maroc qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau et qui a également battu dans son parcours l'Angola au premier tour et l'Égypte en quart de finale tout de même.
Hugo Moissonnier, notre envoyé spécial sur cet Afrobasket 2017 qui s'achève donc sur une victoire à domicile de la Tunisie. Merci Hugo.
Eh bien, on va passer au football maintenant, Antoine. Le football, retour des coupes africaines sur le continent, les coupes africaines de clubs, des quarts de finale aller d'abord en Ligue des Champions. Bonne opération par l'USM Alger.
Oui, l'USMA qui prend une petite option en vue des demi-finales en allant chercher le nul. Un partout au Mozambique sur le terrain du Ferroviario Beira. Ousmane Darfalou avait ouvert le score pour les Algérois. Mais le vétéran congolais Fabrice Kanda a égalisé et entretenu ainsi l'espoir pour le Ferroviario. Dans l'autre rencontre, match complet. Complètement fou entre l'Al Ahly du Caire et l'Espérance de Tunis. Score final de partout avec un très mauvais match du gardien de l'Al Ahly, Sherif Ekrami, international égyptien. Al Ahly qui devra batailler au retour à Tunis s'il veut atteindre les demi. Demain, fin de ses quarts de finale aller de Ligue des Champions. Au programme, les Mamelodi Sundance, les tenants du titre face au Wydad Casablanca et l'Al Ahly Tripoli, les Libyens, face à l'Étoile du Sahel.
En Coupe de la Confédération, très bonne opération du tout-puissant Mazembe.
Les Corbeaux en déplacement au Soudan sur le terrain de la Lilal El Obeid et qui se sont imposés 2-1. Gros match de Ben Malango Nguita, auteur d'un doublé après l'ouverture du score de Mohamed Tahir. En ce moment, deux rencontres. Les Marocains du FUS Rabat affrontent les Tunisiens du club sportif Sfaxien. On arrive à la toute fin du match et ce sont les Marocains qui mènent 1-0. Dans l'autre rencontre, on est à un quart d'heure de la fin du match et le Mouloudia Alger mène sur ce même score de 1-0 face au club africain.
On parle un peu des sélections, Antoine, plus précisément des équipes nationales locales engagées au tournoi de l'UFOA, l'Union Ouest-Africaine. Chez lui, le Ghana reste intraitable.
Les Ghanéens sont qualifiés dès la deuxième journée de phase de groupe. Une nouvelle victoire, cette fois 1-0 sur le Mali. Et les tenants du titre comptent 6 points. Ils sont assurés de terminer premier. Ils ne peuvent plus être rattrapés lors de la dernière journée car la Guinée et le Nigeria se sont neutralisés 0-0. Du coup, au classement de ce groupe A, le Ghana est en tête, suivi du Nigeria, 2 points, et de la Guinée et du Mali, un chacun.
Demain, c'est le groupe B.
Et deux surprises de ce début de tournoi, le Bénin et le Niger qui peuvent se qualifier. Si les Béninois battent le Sénégal et que les Nigériens dominent la Côte d'Ivoire, ils seront assurés d'être au rendez-vous des demi-finales. Ce serait la première fois pour le Niger et la deuxième pour le Bénin, troisième de l'édition 2013.
Un petit peu de football en Europe, sixième journée en France. Monaco a battu Strasbourg 3-0 en fin d'après-midi, doublé de Falcao et puis florilège ce soir de 1-0. C'est le cas de Montpellier à 3, de Saint-Etienne à Dijon. Guingamp a battu évidemment 1-0 Lille à domicile et Nantes s'est imposé également à domicile face à Caen. Demain, Amiens-Marseille, Rennes-Nice, Angers-Metz, Paris-Saint-Germain-Lyon au classement provisoire. Monaco revient à hauteur du PSG avec 15 points. L'AS Saint-Etienne monte sur le podium avec 13 points. En Europe, cinquième journée en Angleterre, le carton du leader Manchester City, 6-0 sur la pelouse de Watford avec un triplé d'Agüero. Quatrième journée en Espagne, le Barça toujours en tête s'en est sorti à Getafe 2-1. L'Atlético dans son nouveau stade, on en parlera d'ailleurs d'ailleurs demain soir, a battu Malaga 1-0 grâce à un but d'Antoine Griezmann. Et puis en Allemagne, quatrième journée, le Bayern Munich respire un peu mieux, deuxième ce soir grâce à une victoire 4-0 devant Mayence, doublé de Robben et Lewandowski. Les demi-finales de la Coupe Davis à Lille, la France a pris l'avantage face à la Serbie, elle mène 2-1 après la facile victoire cet après-midi de la paire Mahut-Herbert. C'était au stade Pierre Mauroy sous les yeux d'Éric Mamrut que l'on retrouve. Bonsoir Éric.
Bonsoir Alexandre, bonsoir tout le monde.
Match quasi parfait de la part des deux tricolores tout à l'heure.
Le match a été à sens unique pendant 2 sets et demi. Durant 1h30, Pierre Hugerbert et Nicolas Mahut ont livré un véritable récital, vif, percutant, tout leur réussissait au service, au retour, en passing, à la volée. En face, Nenad Zimonjić qui faisait bien ses 41 ans et Filip Krajinovic était à l'agonie. Il faut dire qu'ils ne comptaient jusque-là que 2 matchs joués ensemble pour 2 défaites. Résultat, 6-1, 6-2, 5 jeux à 2, service à suivre en 2 coups de cuillère à peau pour les Bleus. Le moment qu'ont choisi Herbert et Mahut pour se crisper. Ils ont ainsi perdu 4 jeux d'affilée pour se retrouver au jeu décisif. Mais le duo français a repris ses esprits, s'imposant finalement 7-3. À l'arrivée, une superbe copie tout de même livrée par ceux qui ont remporté 2 tournois du Grand Chelem dans leur carrière. Leur plus beau match en Coupe Davis, eux qui fêtaient leur 4e association dans l'épreuve. C'est du moins l'avis de Nicolas Mahut.
Assurément, c'est notre meilleur match et de loin. On avait à cœur de commencer très fort. On s'était dit, voilà, on reste du début à la fin, on met beaucoup d'énergie, on s'encourage beaucoup, on se sert du public. C'était la première aussi pour Pierre Hugues en France. Au passage, le public a été fantastique, de l'entrée sur le court jusqu'à la balle de match. Voilà, on sentait qu'on était de mieux en mieux sur le circuit, sur les tournois qu'on a pu faire ensemble, mais il fallait encore le démontrer en Coupe Davis avec la tension qui va avec, en rentrant sur le court à 1-1. Et aujourd'hui, je pense qu'on a fait un match plein, ouais.
Un match plein que les deux hommes n'avaient encore pas réussi à signer en Coupe Davis, malgré 2 victoires lors de leurs 3 premiers matchs. La manière avait toujours manqué. Cette fois, ils l'ont, leur match référence. Et de cela, Pierre Hugerbert, qui n'a rejoint l'équipe de France que l'an dernier, bien, il en avait vraiment besoin.
Ouais, vraiment. Quand je suis rentré sur le terrain, et ça fait un moment, déjà, j'avais l'impression pendant la prépa, ça faisait 4 jours que j'en pouvais plus, fallait que je rentre sur le terrain, que je joue. Je me sentais bien et j'avais envie vraiment de me prouver, de prouver à l'équipe, de prouver à Nico que je tenais la baraque, que j'allais tenir la baraque en double et que voilà, que j'allais faire un match plein et qu'on aurait voilà, que je serais content de moi et c'est ce qui a été fait aujourd'hui, donc je suis très très content et ça me tardait effectivement de faire un match référence.
Un autre qui est soulagé ce soir, c'est Yannick Noah, très stressé hier, malheureux après la défaite de Lucas Pouille. Le capitaine a le moral en hausse, même s'il sait qu'à 2-1, la rencontre n'est pas encore pliée.
Ouais, ça va mieux. Ça va mieux, ça, c'est pas terminé. Il reste 1 point, évidemment, mais voilà, des joueurs en face qui n'ont rien à perdre. Donc, on reste concentré. Voilà, on va essayer de aller arracher le 1er point dès le match de Joe.
À Joe, Wilfried Tsonga, en effet, d'offrir la qualification à son équipe demain. Il jouera le 1er match contre Dusan Lajovic. S'il échouait, toutefois, Lucas Pouille affrontera alors Laszlo Djere lors d'un match décisif.
Merci Éric Mamrut et à demain pour l'épilogue de cette demi-finale entre la France et la Serbie. Dans l'autre demi, c'est l'Australie qui a pris l'avantage face à la Belgique grâce au double également. 2-1, c'est à Bruxelles. Le Tour de Côte d'Ivoire cycliste à présent, une victoire belge était inévitable, le tout était de connaître l'identité du vainqueur Antoine.
Et oui, et c'est finalement Dieter Bouvry qui l'emporte, le Belge, qui a été porteur du maillot jaune à 3 reprises dans ce Tour de la Réconciliation, mais il s'en était fait déposséder avant cette dernière étape par Louis Vérels, son coéquipier. Mais en terminant aujourd'hui dans les roues d'Hicham Benouza, vainqueur à Adzopé après 108 km de course, Bouvry s'impose finalement sur ce tour avec 26 secondes d'avance sur donc son coéquipier Louis Vérels. Un échange de maillots issu d'une stratégie définie à l'avance, c'est ce qu'assure Tom Van Den Busch, le coureur de l'équipe des Flandres.
On a décidé hier que le classement général c'est pour Dieter.
Alors pourquoi Dieter plutôt
oui,
que Mathieu?
Parce qu'il est le plus fort. La première étape il a une chute, donc il a perdu 1 minute comme ça, donc normalement Dieter est le premier. Donc on a décidé et Dieter va attaquer et c'est parfait aussi avec Mathias.
Est-ce que pour vous Dieter était suffisamment fort pour garder par exemple le maillot du début à la fin, depuis Korogo jusqu'ici?
Oui, peut-être oui, mais c'est pas facile. Ok, nous sommes le plus fort, mais un chute comme ça, c'est parfait pour nous.
Parlez-nous de Dieter.
Oui, alors déjà deux années, il a un coureur professionnel. Il a roulé, je pense, deux années à l'équipe Cofidis. Donc, ils sont très forts. Hein.
Quelles sont les équipes africaines qui vous ont peut-être pas impressionné, mais dont vous pensez qu'elles peuvent progresser?
Oui, les Marocains sont aussi forts, les Angolais sont aussi forts. C'est pas facile pour gagner, c'est tout.
Comment situez-vous ce Tour de Côte d'Ivoire au niveau difficulté par rapport au Faso, par rapport au Sénégal, Madagascar? Wow,
c'est la première fois que je suis ici avec l'équipe, mais le nouveau est le même, comme Burkina Faso et... C'est ça, à peu près le même.
Vous reviendrez en Côte d'Ivoire?
Je ne sais pas, peut-être, on verra.
Voilà, Tom Van Den Bush. Et puis du côté de la Côte d'Ivoire, malgré 18 coureurs dans le peloton, une seule victoire d'étape, celle de Bassirou Konté sur le contre-la-montre de Beoumi. Un échec aggravé par le mouvement d'humeur des coureurs. Une grève avant le départ d'Abengourou pour protester contre le non-paiement de primes, pouvait-on lire sur le profil Facebook de la Fédération Ivoirienne de Cyclisme. Au final, le meilleur Ivoirien termine 5e à presque 2 minutes du vainqueur de ce tour. Un mauvais choix de course en est également responsable, selon Karamoko Bamba, le coureur de l'équipe de Côte d'Ivoire.
Bon, on avait une stratégie de surveiller le maillot et surveiller quelques dossards. Donc on est resté avec eux en pensant que le coup allait être annulé parce que le coup est parti très tôt. Et ce qui n'a pas été le cas, donc on a eu une journée vraiment terrible. Mais pas si terrible que ça parce qu'on est arrivé moins d'une minute. Donc l'objectif était de limiter les écarts. Donc ce qui a été fait, on a aidé les Angolais à rouler à bloc. Donc c'était pas mal quoi.
Cela dit, les Belges avaient dans l'idée de placer trois garçons aux trois premières places du classement général et ils y sont arrivés.
Ils ont rempli le podium. Quand même, ils sont très très forts. C'est pas le même niveau. Et nous, on se bat pour être au podium, mais ce qui n'a pas été le cas. Donc on prend une leçon et on espère que les prochains coups seront plus meilleurs quoi.
Karamoko Bamba, le coureur ivoirien au micro de Frédéric Gassman. Dernière occasion de briller pour les locaux, le Grand Prix international d'Abidjan. 81 km de circuit dans la capitale économique à parcourir. Demain, c'est la dernière épreuve de ce Tour de Côte d'Ivoire, mais le résultat ne sera pas pris en compte dans le classement du Tour.
Oubliez le show Mayweather-McGregor d'il y a 3 semaines, place à de la vraie boxe ce soir à Las Vegas aux États-Unis. Un combat très attendu en poids moyen entre le Kazakh Gennady Golovkin, 35 ans, champion WBA, WBC, IBF en titre, invaincu en 37 combats, et le Mexicain Canelo Alvarez, 27 ans, 51 combats pro, un nul et une seule défaite face à un certain Floyd Mayweather en catégorie inférieure. Malgré le manque de notoriété des deux boxeurs, il y a tout, paraît-il, dans ce combat pour attirer l'œil. Jean-Philippe Lustig, journaliste depuis 30 ans et expert boxe actuellement chez nos confrères de l'équipe 21, décortique pour nous ce Golovkin-Alvarez si spécial.
C'est la catégorie des poids moyens avec celle des lourds, celle qui fait rêver. Et puis qu'il y a une histoire avec des champions qui ont marqué l'histoire de ce sport. Les Hagler, les Monzon, les Leonard. Et puis en raison du profil et de la personnalité de Golovkin, le Kazakh, et d'Alvarez, le Mexicain. Le Kazakh Golovkin, c'est un boxeur hallucinant, voilà, et le mot n'est pas trop fort, une longévité incroyable, 350 combats amateurs, il a été déjà aux Jeux d'Athènes, et ensuite il passe pro, après une carrière amateur où il a subi, je crois que 3 ou 4 défaites en 360 combats, donc c'est dément, et depuis qu'il est passé professionnel, en 12 ans, il n'a jamais été battu. 37 combats, 37 victoires, 33 par KO. Il est champion du monde depuis 2010. Et puis en face, il y a un Mexicain, Alvarez. C'est jeune, ça a 27 ans. Il a un tempérament de feu, qui n'est pas un gros frappeur, qui est efficace, qui va très vite de bras. Donc il y a une opposition de style, de personnalité. Voilà pourquoi c'est un combat qui est si alléchant.
Gennady Golovkin contre Canelo Alvarez, combat pour le titre des poids moyens à 3h, temps universel, 7000, le résultat dans nos éditions du matin. Et puis maintenant, il est temps de conclure cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à Thomas Trochot à la réalisation et à Antoine Grenier bien sûr qui a préparé cette émission avec moi. Mondial Sport, première partie, c'est donc fini. La suite, c'est demain, même horaire, 23h10 à Paris, 21h10 TU. D'ici là, restez bien à l'écoute de la Radio du Monde.